Alors, venons-en au chapitre 5 d'Éphésiens. J'espère que ce que nous allons découvrir ensemble ce soir, d'abord, vous donnera envie de relire l'intégralité du chapitre à la maison. Donc, pour aller vite au but, voilà, le chapitre commence tel quel, avec cette exhortation à imiter Dieu. Cette exhortation s'accompagne aussi d'exhortations à la sobriété, à un engagement conséquent. On continue tout de suite pour aller vers la deuxième partie de ce chapitre. Encore une attaque en règle contre tout ce qui peut déshonorer le Seigneur et venir à l'encontre de sa volonté. Et nous allons donc lire à partir du verset 15. C'est certainement la clé de ce chapitre. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à celui qui est Père. Verset 21. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Quel est le verset clé de ce chapitre? Vous le situez où? Soyez remplis de l'Esprit. Tout tourne autour de cet ordre du Seigneur vis-à-vis de ses enfants. Cet ordre résume le défi qu'il nous appartient de relever tous les jours que Dieu nous donne. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un impératif présent. Oui, bon, on ne fait pas les grammaires. On reprend tout ça la semaine prochaine à 17h. 17h15, oui, c'est ça. Mais quand même, c'est un ordre. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option. C'est une exigence incontournable pour vous et moi. Tout le restant de notre vie quotidienne dépend de notre faculté à vivre cette plénitude spirituelle. Il ne s'agit pas d'être rempli de l'Esprit Saint un jour, mais toujours, toujours à nouveau. Être rempli de la plénitude du Saint-Esprit au premier jour, au jour de notre conversion, mais aussi tous les autres jours que le Seigneur nous donne. C'est un défi permanent. Et là, il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin, il s'agit de vivre cette exigence jusqu'au bout. Voilà, restez debout, assis si vous voulez, hein. À genoux aussi, mais debout ça veut dire être resté ferme. Voilà. Encore faut-il comprendre ce que recouvre concrètement cette plénitude du Saint-Esprit. Avant même d'aborder ce passage dans le détail, pour en tirer des réponses précises, dites-moi, en tout cas, en quelques phrases, ce que recouvre cette exigence pour vous. Je dis, ou l'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit, vous comprenez par là. Bon, ça va, c'est pour vous faire réfléchir, hein, c'est... Et puis, vous auriez certainement, chacun de nous aurait certainement beaucoup de choses à dire. Bon, et si ça alimente nos échanges fraternels, ce sera très constructif. Bon, eh bien oui, c'est très important de relever que cet ordre est accompagné d'un certain nombre de participes. Encore de la grammaire, il exagère. Oui, mais si je vous dis que c'est très important, en général, nos traductions, quelles qu'elles soient, aligne un certain nombre d'impératifs, d'ordres. Soyez remplis du Saint-Esprit, mais chantez des psaumes. Soyez reconnaissants. C'est juste, mais dans l'original, les verbes sont liés les uns aux autres. Les participes sont dépendants de l'impératif. L'ordre que Dieu nous donne, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Et à la locomotive s'accrochent les wagons des autres verbes. Pour être rempli du Saint-Esprit, où, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous excellerez dans la louange, vous excellerez dans la soumission. Ouais. Je n'invente rien, c'est ici. Vous exprimerez avec plaisir, sans obligation, la reconnaissance. Vous saurez dire merci. Voilà. Bon, oui, voilà, j'ai fait le tour. C'est à cause de ce noyau qu'en général, aucun commentaire ne relève, sinon la traduction d'Alfred Kuhn, la transcription du Nouveau Testament. Lui, il a relevé ce secret de la plénitude. Voilà. En général, on n'associe pas à la plénitude du Saint-Esprit la louange, le psaume, la reconnaissance, la soumission. Expliquez-moi pourquoi. Oui. Ben non, ce n'est pas compliqué. Nous sommes les enfants d'Adam et d'Ève insoumis. Nous sommes d'une France insoumise. Enfin, certains s'en vantent. Il n'y a pas que la France. Voilà, ça n'arrange rien. Oui. Vas-y. Donc, on continue. Dans le chapitre, ce qu'il faut savoir, c'est que autant il est dit des femmes qu'elles soient soumises à leur homme, que les chrétiens sont soumis les uns aux autres en face du Christ, il est aussi dit, et c'est sur le même plan, que les enfants soient soumis à leurs parents, que les esclaves soient soumis à leur maître. D'accord, il faut relier tout ça. Et bon, encore une fois, nous avons le chic de tout séparé. On voit tout ça de manière morcelée. Là, il faut retrouver le sens. Donc, ces participes disent à la fois les marques de cette plénitude et les conditions d'accès à cette plénitude. Ces participes traduisent les marques du Saint-Esprit dans le sens que quand l'Esprit Saint nous remplit, alors nous trouvons du plaisir à chanter les louanges du Seigneur. C'est vrai, ensemble, mais aussi seul, quoi que l'on fasse. Tout comme à occuper la place qui nous est dédiée devant lui. Parce qu'être soumis, c'est en fait occuper la place que Dieu nous réserve sous son regard. Et nous sommes toujours subalternes de quelqu'un. Cela ne fait pas de nous des êtres inférieurs. Cela ne fait pas de l'homme, par exemple, quelqu'un qui doit absolument supplanter sa femme, écraser. Sinon, on n'a rien compris. Vous n'avez pas l'ordre, soyez au-dessus d'eux, votre épouse. Voilà, il est dit autre chose. Vous savez quoi, hein? Comme Christ a aimé l'Église, alors lui, il s'est mis plutôt dessous. Dessous ses disciples, il a enfilé le tablier de l'esclave, il a lavé le pied des disciples, donnant par là un exemple. Nous allons revenir dessus. Autrement dit, si on est en peine avec la louange, avec la soumission, nous sommes des rebelles. Hein, bon, certains demeurent à bout très longtemps. Hein, ont une crise avec l'autorité. Voilà. On peut légitimement se demander jusqu'où va notre plénitude. Il y a quelque chose qui coince. Voilà. Bon, voilà. Ces participes ne traduisent pas seulement les marques de l'esprit, mais sont aussi une indication précieuse des moyens d'accès à la plénitude du Saint-Esprit. Autrement dit, pour vivre quotidiennement cette plénitude du Saint-Esprit, dans le concret des jours, nous avons tout intérêt à apprendre à pratiquer simultanément, successivement, la louange, la reconnaissance, comme un art de vivre. Ça fait partie de notre discipline de croyants. Mais aussi le sens de la soumission les uns aux autres devant le Seigneur. Donc c'est Alfred Kuhn qui nous l'a révélé. Oui, alors, pourquoi ce sujet m'avait travaillé au temps de mes études, et même avant, au temps de ma jeunesse, bon, j'avais que 14 ans quand la révolution s'est faite dans les rues, mais j'en garde des souvenirs. Bref, mais non, c'est surtout autre chose. J'étais tiraillé d'un côté entre ma maman qui me disait au sens propre, va te faire couper les cheveux. Ça va ? Comme le chanteur Antoine aimait à le chanter. Et de l'autre, le principe de la soumission suggéré, enfin plus que suggéré, par l'Écriture. Ah, c'est le dilemme d'un jeune, de tout jeune. Être soumis au Seigneur, être soumis aux autorités, patron, parent, qu'est-ce à dire ? Faut-il tout accepter avec résignation, se taire, tout subir, un point c'est tout ? Ce texte est-il une invitation à tout accepter, même l'injustice, comme on l'a parfois compris, à tort et à travers ? Dans un premier temps, ce texte me laissait songeur, surtout quand il est fait état pour la femme de devoir être soumise au mari, à son mari. Jusqu'au moment où le Seigneur, dans les années qui ont suivi, m'ont fait comprendre un peu mieux le sens de ce passage et son incidence dans la vie chrétienne, et qui n'a, rassurez-vous si besoin, rien à voir avec une forme ou une autre d'exploitation, de domination. Rien à voir. On n'est pas là pour se dominer mutuellement. Ce fut tellement révolutionnaire que depuis, j'ai repris systématiquement ce passage de l'Écriture chaque fois que j'accompagnais et préparais un couple au mariage. Ben, j'avais plus de scrupules. Ah oui, parce qu'il est révolutionnaire. On est tous là à avoir eu l'occasion de nous en rendre compte. Cette soumission n'était plus aussi décourageante qu'au départ. Elle s'inscrivait dans une logique incroyable, très éloignée du sens que l'on donne habituellement à cette notion. Mais voilà. Alors, ce que la plénitude du Saint-Esprit ne veut pas dire, et j'irai peut-être un peu plus vite, parce que c'est une évidence, hein, je ne vous apprendrai rien. Alors, il y a peut-être un mot de vocabulaire que vous découvrez, être infatué. C'est être plein de soi, de son ego. Être rempli de Dieu, c'est être vide de soi. Ça va de soi. Non, pas tellement. Oui, ça tombe sous le sens, mais on est très loin, forcément, de suivre systématiquement cet avis. À partir du moment où je dis « moi, président, je », ça va. Donc, on peut attirer son attention, l'attention de nos gouvernants, de nos candidats, à cet avertissement de Dieu au prince de Tyr. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc c'est une erreur absolue. Ou alors, Jacques 5, 13, je vais aller par-ci, par-là. Là, j'ai attiré l'attention de votre pasteur que, ah oui, j'avais aussi sélectionné ce passage, mais c'était avant dimanche dernier. Autrement dit, oui, en cas de plénitude du Saint-Esprit, on raisonne autrement. Quand on se laisse déterminer par l'Esprit-Saint, on raisonne autrement, on préférera dire, par exemple, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Ou alors Jacques 5, 15, si le Seigneur le veut bien, nous ferons ci, nous ferons ça, nous irons par-ci, par-là. Quand on est rempli de son ego, au lieu d'être rempli de l'esprit, on fait tout tourner autour de soi. Il n'y a que moi qui compte, mon avis, mais pas celui des autres, et certainement pas l'avis du Seigneur. Alors qu'on sait pertinemment d'avance sa réponse, on va quand même le consulter. Seigneur. Que dois-je faire dans pareil cas ? Je sais très bien ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas pour autant. Ça me rappelle, et c'est l'histoire que j'évoque qui est évoquée dans Jérémie 42. Israël demande faussement de l'aide. Ils viennent trouver Jérémie pour lui demander quoi faire dans l'immédiat, aller ou non en Égypte. Ils étaient déjà décidés à aller là-bas. Et donc, Jérémie, très attentif à son peuple, dit « Mais je vais intercéder auprès du Seigneur, comme vous le demandez, je vous communiquerai la parole, que le Seigneur vous répondra. Nous agirons exactement conformément à cette parole. » Vous pensez qu'ils l'ont fait ? Non, c'est pas ça. C'est ça le drame d'Israël. On continue. Il leur donne la réponse du Seigneur qui, sans ambiguïté, leur demande de ne pas fuir en Égypte. C'est faux ce que tu dis. Le Seigneur, notre Dieu, ne t'a pas envoyé. N'allez pas vous réfugier en Égypte. Ils sont allés quand même se réfugier en Égypte. Ils y laisseront leur peau. Et même Jérémie était obligé de suivre. Ce sera le comble de leur rébellion vis-à-vis du Seigneur. Ils auraient lapidé Jérémie, pardon, une fois arrivé en Égypte, car ils ne supportaient plus ce qu'il leur disait. Donc, vous voyez, demander que le Seigneur, sa volonté se fasse, mais il faut que ce soit sincère. Voilà. Et donc, je crois qu'on peut facilement en conclure avec cette affirmation. L'obéissance va de pair avec la plénitude du Saint-Esprit. L'obéissance prime surtout. Et là, un autre juge, c'était donc Samuel, le premier en place, qui dira cette parole bien connue, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Obéir, c'est écouter l'autre dans une position d'humilité et de soumission. Écouter. Obéir, c'est vraiment le verbe écouter en grec, avec un préfixe qui veut dire soumis. Soumis à qui? Dans la soumission à Dieu. Mais le chic, c'est que le Seigneur nous obéit aussi, dans le sens qu'il nous écoute. Il prend au sérieux ce que nous disons. Il se met dessous, à nos pieds. Enfin, c'était le comble de son amour qu'il a porté à descendre du ciel pour partager notre vie et jusqu'à la croix. Il y a l'exemple de Jésus qui, le premier, a fait preuve d'obéissance par rapport à son Père. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8. Il s'est montré disponible, disposé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à faire la volonté de son Père, jusqu'à accepter le principe du sacrifice de sa vie. Tout a commencé avec cette déclaration, cet engagement, Hébreux 17, « Je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. » Quand on se laisse aller à sa propre nature, on est vaniteux, plein de nous-mêmes, on fait tout tourner autour de notre petite personne. On suit son idée, on suit les penchants de notre mauvais cœur. Mais quand le Seigneur occupe le terrain, il nous influence de façon à faire primer dans nos vies les intérêts de notre Père et sa volonté. Et donc, nous apprenons à nous plier à sa volonté. Nous apprenons à dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Avec Jean-Baptiste, nous aimons redire que je diminue, que lui, voilà. Donc, il va de soi que son influence sur nos vies jouera autant sur le flot de nos paroles que dans la suite de nos actions. Et là, c'est l'occasion de relever la différence entre l'illumination de l'Esprit-Saint et l'illuminisme. Autant c'est une bonne chose que de se laisser renouveler dans son intelligence par le Saint-Esprit pour réussir à obtenir... D'accord. Pour réussir à obtenir, à trouver ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu, autant c'est fâcheux et dangereux de se croire porteur d'une parole de Dieu alors qu'on est seulement éconduit, séduit, trompé par ses propres raisonnements. Et là, j'évoque justement un événement qui a ébranlé l'ensemble des familles de la évangélique dans les années 90, ce qu'on appelle le mouvement de Toronto, parce qu'effectivement, ça a commencé là-bas, au Canada. Un pseudo-mouvement de réveil qui s'est traduit par diverses manifestations étranges et folles. Sous prétexte que l'esprit les agitait, certains se mettaient à ramper au sol, lancer des cris d'animaux ou à faire tomber les gens à la renverse. Justement, il y a quelque chose à dire à cela? Oui, il y a quelque chose à répliquer. Quand le Seigneur se manifeste aujourd'hui, il ne contredit pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait par ailleurs. Ces manifestations bizarres ne portent pas la marque du Saint-Esprit, elles n'apportent rien de plus à la vie spirituelle, c'est de l'ordre de l'illuminisme. Alors, il y en a eu au 1er siècle, il y en a eu au temps de la Réforme, avec donc le mouvement anabaptiste, mais la version qui s'est développée à Münster. Elle s'est accompagnée aussi de libertinage. C'est en Allemagne, oui, c'est en Allemagne. Et ça a jeté le discrédit sur la réforme radicale. De ce mouvement et auxquels ils n'étaient pas liés de fait. Hein. Les Ménonites sont issus, mais ils n'ont pas partagé cette déviation. Et pour dire que ça c'est arrivé dans l'histoire. L'illumination de l'esprit rapproche de Jésus et de ses qualités. On comprend l'insistance de Paul demandant aux chrétiens d'Éphèse de faire preuve de sagesse, de prudence et de sérieux. Donc vous avez le verset 15, hein, cet appel à la sagesse. On va continuer. Même quand l'émotion s'en mêle, l'important est la personne de Jésus-Christ et notre conformité avec la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous visite, que ce soit en église ou en privé, quand on le rencontre en tête à tête, chez nous, à la maison ou ailleurs, il est toujours possible que l'émotion soit à son comble. Il ne faut pas avoir peur. Non. Que nous en venions aux larmes, que sais-je encore. De mon côté, voilà, je l'aurais dit une fois, puis ce sera la seule fois, hein. Comme ça vous apprenez à me connaître, mais j'avais 8 ans. J'étais dans une colonie de vacances, ménonite d'ailleurs, au nord de l'Alsace, et un matin, je ne sais pas dans quelles circonstances, le moniteur est venu me trouver. « Dis-moi, Jean-Philippe, tu viens, tu veux accueillir Jésus dans ton cœur, 8 ans. » J'ai dit oui. On s'est mis à genoux, on a prié. J'ai des larmes parce que j'ai compris que Jésus était mort pour moi. Il me regardait favorablement. C'était le point de départ de ma vie chrétienne. Même si j'étais né dans une famille chrétienne, mais c'est quand même là que je situe le moment où je me suis approché. J'ai compris le noyau de l'évangile. Alors j'ai des larmes. Maintenant, est-ce que tout le monde doit passer par là, se mettre à genoux? Ça, ce n'est pas le plus important. C'est le résultat qui compte, que Jésus-Christ soit honoré comme Seigneur. Voilà. Le critère d'une action spirituelle, c'est son accord avec la parole de Dieu comme au caractère de Jésus-Christ. Et on peut douter de telle ou telle manifestation si elle néglige ces critères-là. Vous avez entendu, hein, le fait que Jésus-Christ soit au centre, que ce soit conforme au reste, à l'ensemble de la révélation. Ça, c'est un critère. Bon, on ne peut pas tout dire, mais on dit juste à quelques points. Continuons. Et je crois qu'en ce temps en particulier, mais je crois que c'est toute une... C'est en permanence, il faut faire attention aux mensonges. En ces temps préélectoraux, ne confondons pas la vérité avec le mensonge. Il circule sur les réseaux, dans la bouche de certains, des fake news. Hein, d'accord ? Des post-vérités, des faits alternatifs. Vous avez entendu, hein ? On ne parle plus de mensonge, de propagande. On emploie des nouveaux mots, mais c'est toujours la même réalité. On pense en fait à des faits qui ne sont pas avérés, à des rumeurs, à des faits vus, revus, corrigés en fonction de telle ou telle conviction, au service de la propagande ou d'idées très marquées. Mes amis, il faut faire attention. Il ne faut pas se faire avoir. Ben, ce que je dis, c'est qu'une partie de nos frères évangéliques, bref, y a, donc, quels que soient les combats, mais encore aujourd'hui, certains suivent les yeux presque fermés, telle ou telle approche. Nous sommes de passage dans ce monde, nous devons approuver, encourager ce qu'il y a de positif chez les uns, chez les autres, mais ne pas fermer les yeux sur ce qui correspond à un mensonge. Voilà, c'est juste ça. Et par conséquent, conservons jusqu'au bout, l'amour de la vérité. Gardons chevillé au cœur l'amour de la vérité qui seul saura nous délivrer au pire moment. Il y a ce verset de Thessaloniciens 2 qui parle de ceux qui se perdent faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Donc il faut avoir un amour de la vérité par-dessus tout. Ensuite, faisons état de la de sobriété dans les paroles. Donc il va falloir se mettre en garde aux tromperies qui circulent, mais aussi à tout ce que l'on peut dire. Faisons en sorte que nos paroles soient utiles et ne soient pas futiles. Faites attention à ce que l'on dit. Et donc, il y a ces 3-4 versets au début du chapitre qui dénoncent les plaisanteries douteuses, caricaturales, qui ont pour effet d'alourdir l'atmosphère et de blesser grandement les autres. En France, nos humoristes en sont devenus les spécialistes. Ça pique, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours très bon. Comment ça se passe au travail quand des collègues abusent de plaisanteries grivoises? 2 secondes, Joseline, tu peux rapporter, parce que tu as vécu ça avec tes collègues aux HLM. Voilà. Je mets à contribution. Oui, alors tu te lèves et tu... Peut-être... C'est pas un ordre, hein. Voilà, donc faisons preuve de respect, utilisons sagement le pouvoir de la parole. Alors ensuite, ce n'est pas étonnant que nous sommes en réaction, en opposition, en guerre quelque part par rapport à l'esprit de ce monde qui est développé par l'apôtre Jean en ces termes. Donc, j'ai réuni plusieurs traductions d'un coup. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'envie de posséder ce que l'on voit, la volonté de satisfaire ses propres désirs, de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres et qui vient de la richesse, la confiance orgueilleuse dans les biens, l'orgueil de la vie, la volonté de puissance, tout cela. Bref, c'est juste un petit développement pour dire voilà, tout ce qui est à l'opposé de la plénitude du Saint-Esprit à laquelle on tend. On attend. Le Saint-Esprit nous fait tendre une direction différente, opposée. Le Saint-Esprit nous fait tendre à l'humilité, au don de soi et au pardon. À la place de l'orgueil qui ramène tout à soi, à son honneur, à son pouvoir, il substitue l'humilité qui porte au don de soi et au pardon. Au nom de Jésus, comme Jésus, avec Jésus. Voilà. Et cela se traduit par une relation singulière avec les autres, bâtie sur le respect et l'attention réciproque. Voilà la soumission. Ce n'est pas ce qu'on imagine. Faire obéir les uns ou les autres, au doigt et à l'œil. Même en tant que parent, ce n'est pas forcément le plus intelligent. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire jouer l'autorité en faisant preuve de pédagogie, etc. Bon. Et cela se traduit donc par une relation singulière, dans l'humilité, qui considère l'autre comme vous étant supérieur. Ouais, c'est bien avancé. Donc, autrement dit, quand je me laisse remplir du Saint-Esprit, j'accepte de me soumettre aux autres dans la crainte du Christ. La soumission réciproque dans la crainte du Christ, c'est l'anti-bling-bling, c'est tout sauf être rempli de soi-même et vouloir en montrer aux autres en occupant la première place. C'est à reconnaître, apprendre à reconnaître en mon frère, en ma sœur, dans l'Église, quelqu'un de plus important que moi, c'est lui attacher plus d'importance qu'à moi-même. Philippiens 2, et c'est là-haut, ne faites rien par esprit de parti, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs, au-dessus de vous-même. Voilà ma place, la place qui est la mienne, la place modeste que Dieu me destine, à partir de laquelle je suis censé remplir ma vocation. Ce n'est pas la place du frère ou de la sœur, c'est la mienne, la même où je fais mon apprentissage de disciple. Donc, je n'ai pas à toujours épier mon frère, ma sœur, et avoir envie d'occuper la même place que lui. C'est de simplement d'être fidèle à l'appel que Dieu m'adresse, à l'exemple de Jésus. Jésus a su montrer du crédit, de l'attention aux plus faibles, aux plus vulnérables qui frayaient sa route. Les personnes les plus transparentes ou qui cherchaient vraiment à passer inaperçues, nous pensons à Zachée, nous pensons à la femme samaritaine. Jésus a su les repérer, leur prêter de l'importance Et non seulement il a aussi su devancer et déceler leurs attentes et y répondre parfaitement, sans les écraser, en les relevant. C'est une leçon pour nous tous. Et pour que nous avancions sur ce chemin, puissions-nous reprendre cette prière qui est affichée, Ésaïe 40, 50, verset 4. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière d'un disciple. Autrement dit, ça s'apprend. Un disciple, c'est celui qui apprend. Jésus a loué le sens de l'écoute et du recueillement d'une Marie et critiqué l'activisme de sa sœur Marthe, affairée à l'accueil et à la préparation du repas. En lui disant, tu ajoutes, voilà, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qu'il ne lui soit point ôté. Marie est restée au pied de Jésus. Le disciple s'est tenu au pied du maître, c'est ainsi qu'elle a appris à grandir. Alors, pour être plus rapide et donc aller vers la conclusion, je préciserai. Être rempli du Saint-Esprit, c'est rester sous l'autorité du maître, faire preuve de patience et de persévérance. Quand on dit ça, on renvoie un même passage, celui qui persévère jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est rester sous l'autorité du Seigneur. Rester au pied du maître. Personne n'ose traduire. Pourquoi ? Mais pourtant, c'est ça qui est suggéré. Ensuite, c'est servir comme Jésus. C'est servir comme Jésus. Dans cette démarche, l'autorité en place donne l'exemple et le ton. Je l'ai cité précédemment. C'est l'exemple de Jean, chapitre 13, verset 15. À 17. Je vais laisser un exemple. Faites-le, vous aussi, et vous serez par-dessus le marché heureux. Lui, le grand boss, n'a pas fait montre de brutalité, il n'a pas cherché à manipuler les foules, il ne s'est pas livré à de la propagande, il n'a pas vidé les poches de ses disciples pour remplir les siennes. Non, il s'est donné. Il a fait preuve de tendresse et dévoué jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort de la croix. Les pouvoirs de ce monde, à l'inverse, se caractérisent que l'on vise ceux de droite ou de gauche à réviser, revoir les taxes, les impôts. Donc, pressurer un peu la population, il en faut, hein, mais c'est une tendance d'aller dans ce sens. Dominer le peuple, l'exploiter, tout en se faisant passer pour des bienfaiteurs. Jésus a aimé l'Église, il a donné l'exemple de son amour en l'aimant jusqu'au bout. Donc, même quand il reprend un apôtre comme Pierre, en lui faisant remarquer que ses pensées n'étaient pas celles de Dieu, mais celles de Satan, il n'empêche qu'il les a aimés. Il ne les a pas poursuivis de son regard réprobateur, il a relevé Pierre une fois qu'il était ressuscité. Et pour nous, aimer, c'est... être rempli de l'Esprit Saint, c'est aimer l'autre comme Jésus a aimé l'Église jusqu'au bout, sans excès ni violence. S'il y a des excès de violence encore dans notre monde et dans les relations de couple, au point qu'il y ait des morts tous les jours en France, c'est plus un constat de l'état de perdition de notre monde qu'une recommandation de l'Écriture. Et l'homme dominera. Le désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu au départ. Hein. Voilà ce qui va arriver, un dérèglement dans les relations. Cette tendance pour l'homme d'écraser son épouse n'est pas souhaitable. Ou à l'inverse, pour la femme d'écraser l'homme. Parce que c'est le règne du déséquilibre, le péché. Hein. Mais bon, bref, là où j'ai compris quelque chose de très important... Quand il est question pour la femme d'être soumise, mais il est dit en même temps à l'homme d'aimer comme Jésus, d'aimer sa compagne, son épouse, comme Jésus a aimé l'Église. Et en disant cela, il donne le ton et l'exemple. Quand le mari que je suis aime mon épouse, je donne le ton et l'exemple, un peu comme Jésus, à un autre niveau, à une autre échelle, et sans faiblesse, nous a aimés en tant qu'Église. En faisant preuve du don de soi et du pardon. Donc, c'est la fin de la domination de l'un par l'autre, l'apprentissage du vivre ensemble dans le respect et l'écoute. On continue. Et donc, nous avons à apprendre cela aussi dans l'Église. Pour vivre la plénitude du Saint-Esprit, ou si l'on veut une preuve de la plénitude du Saint-Esprit en soi, nous avons à vivre dans ce sens de la soumission à l'autre, au Seigneur d'abord, aux autres, aux frères et sœurs ensuite, le sens du don et du don de soi à l'image de Jésus-Christ. C'est ça qui compte. C'est cela seul qui compte. Et dans ce domaine, nous sommes évidemment des débutants. Oui, tu peux mettre la suite. Nous sommes des novices, des débiteurs. Nous sommes des débiteurs d'amour. Voilà. Eh bien, voilà, on aura toujours à apprendre jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur nous relève, nous prend. On a toujours à apprendre. On était tout à fait au début de cette aventure, mais c'est la plus belle des aventures. Bon. Et il resterait à dire un dernier mot, mais pour dire que la parole sera à vous plutôt, et dans l'Église et dans nos vies personnelles. L'essentiel maintenant se joue aussi dans la reconnaissance, savoir dire merci, savoir aussi louer le Seigneur par le chant sous tous ses angles, d'une manière ou d'une autre, reprendre les psaumes, par exemple, ce n'est pas un luxe, c'est un privilège. Nous habitons à côté d'une région, les Cévennes, qui a produit les plus beaux chants que la francophonie et pu porter, et qui traverse les siècles, les psaumes, ce qu'on appelle les psaumes. Un poète du roi François Ier, Clément Marot et Théodore de Bèze en ont composé beaucoup. Alors vous allez me dire, c'est plus moderne, ça se prête pas. Si jamais vous me rendez visite à la maison, je vous ferai entendre une version rap, danse, séché. Je ne scandalise personne, mais pour se dire que c'est pas parce que ça a été écrit il y a quelques siècles que ça perd de sa pertinence. C'est pas ce qui est écrit aujourd'hui qui est le plus valable. Donc voilà, les psaumes, c'est biblique, hein, c'est l'inspiration biblique. Non, j'ai pas dit que vous devez aimer ce que je fais. Hein, c'est pas, on a le droit d'aimer la variété, enfin la diversité. Voilà. Donc, en tout cas, ça va nous aider à traverser les moments difficiles. Acte 16, ça vous fait penser à Paul et Silas qui chantaient en pleine prison. Ils étaient enchaînés et pourtant, ils se déchaînaient dans la voix. Voilà, ça a transformé leur quotidien. Donc, nous savons l'importance de la reconnaissance et parce que nous l'apprenons aux enfants. Et nous apprenons aussi à le dire à nos enfants quand nous sommes heureux heureux de les voir suivre la même voie. Et vous auriez beaucoup de choses à dire, mais certainement. Mais il est probable et même certain que l'heure passe. Donc, rempli du Saint-Esprit continuellement, vous voulez vérifier où vous en êtes. Votre petite listing, là, est-ce que ça va? Est-ce que j'ai le sens de la louange? Est-ce que j'ai le sens de la reconnaissance? Est-ce que je sais me tenir à ma place en tant que femme, en tant que mari? Est-ce que je sais, je suis prêt à me donner à fond, jusqu'au bout? Voilà. Et puis après, c'est encore plus riche que ce passage, dans le sens où il nous montre comment avancer. Est-ce que je suis prêt, même si c'est si je n'ai pas l'habitude de chanter, ce n'est pas mon truc. Mais à prendre le temps de lire des psaumes, de chantonner silencieusement,